Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un numéro de janvier 2026 du magazine marocain Loji Imag. Et ce qui m'a vraiment interpellé en le lisant, c'est qu'il ne parle pas que du Maroc, en fait. Il pose une question qui est, je crois, assez universelle. Comment on fait pour avancer, pour se moderniser, sans pour autant jeter par-dessus bord des siècles de savoir, de tradition?
C'est exactement ça.
Le gros morceau du magazine, c'est un dossier sur la médecine traditionnelle. Mais on va le voir, cette tension, ce dialogue entre l'ancien et le nouveau, ça infuse un peu tout. L'économie, les projets culturels, et même la gestion d'une ressource aussi vitale que l'eau.
Je dirais que le magazine, il ne se contente pas de les opposer. Ce n'est pas tradition contre modernité, non. L'enjeu, c'est de comprendre comment une société peut utiliser ses racines, non pas comme une ancre, mais plutôt comme une boussole. Une boussole pour s'orienter dans le tumulte du progrès. C'est un vrai exercice d'équilibriste, en fait.
Alors, commençons par le cœur du réacteur, la médecine. L'éditorialiste, Ahmed Nagy, il lance un vrai pavé dans la mare. Le titre, c'est « Faut-il sortir la médecine traditionnelle de la clandestinité ?» Et il suggère que la coexistence est non seulement possible, mais souhaitable. Il prend l'exemple de la Chine. Ça met la table.
Et le dossier, justement, il compare les médecines traditionnelles marocaines et chinoises. Ce qui est frappant, c'est la base philosophique. C'est une vision holistique. Le corps n'est pas vu comme une machine avec des pièces à réparer.
Non.
C'est un écosystème. En Chine, on connaît un peu le concept du qi, l'énergie vitale, l'équilibre yin-yang. Au Maroc, l'héritage est différent. Il vient plutôt de la médecine gréco-romaine, arabo-islamique. On parle de la théorie des quatre tempéraments. Le sang, la lymphe, la bile, le chaud, le froid, le sec, l'humide. Mais dans les deux cas, la maladie, c'est un déséquilibre.
La philosophie est similaire, d'accord. Mais alors, où est la différence fondamentale?
Elle est dans la trajectoire, dans la reconnaissance par l'État. En Chine, le pouvoir politique a décidé d'intégrer cette médecine, de l'institutionnaliser.
D'accord.
Elle est enseignée à l'université, pratiquée à l'hôpital. Bref, elle est encadrée. Au Maroc, elle est restée dans une sphère plus informelle.
C'est de la transmission orale.
C'est ça. De maître à disciple, de mère à fille. Ça a un certain charme. Ça la protège d'une standardisation, peut-être, mais...
Mais ça l'expose à des risques énormes, j'imagine.
Exactement.
Pour que ce soit concret, un diagnostic sans IRM, sans prise de sang, comment ça se passe? Le magazine donne des exemples.
Oui, et ils sont très parlants. En Chine, un bon praticien va passer un temps fou à examiner la langue.
La langue?
La couleur, la forme, l'enduit. Et il va prendre le pouls. Mais pas juste pour compter les battements. Non, il cherche des dizaines de qualités de pouls différentes qui lui donnent une cartographie de l'état de vos organes. Au Maroc, le fqi, le guérisseur, lui va plutôt s'attacher à une observation globale. Le tempérament, la chaleur de la peau, le regard, l'énergie. C'est une lecture du corps comme un récit, pas juste comme une machine.
C'est fascinant, mais on voit bien où le bât blesse. Si tout repose sur l'interprétation d'une seule personne, sans protocole.
C'est là que le magazine tire la sonnette d'alarme. Il y a ce mythe du « naturel donc inoffensif ».
Ah oui, le fameux.
C'est une illusion dangereuse. Une plante, ce sont des principes actifs. Mal dosé, ça peut être un poison. Et dans ce système, l'autorité du guérisseur ne vient pas d'un diplôme, mais de sa réputation.
Du bouche à oreille.
Voilà. Ça peut très bien marcher, mais ça n'offre aucune garantie contre le charlatanisme ou les accidents.
Attendez, mais si c'est potentiellement si dangereux, comment est-ce que ça survit aussi bien à l'ère d'Internet où le moindre scandale devient viral? Est-ce que le magazine parle d'une forme d'autorégulation par la communauté?
C'est une très bonne question. Il ne parle pas d'autorégulation formelle, non, mais il souligne que la réputation est une force très puissante dans des communautés soudées. Un guérisseur qui causerait du tort, ben, sa clientèle disparaît très vite.
D'accord.
Le vrai problème, c'est que les accidents ne sont pas forcément répertoriés. Une personne qui tombe malade après avoir vu un herboriste, elle finit à l'hôpital conventionnel. Et le lien de cause à effet, il n'est pas toujours fait ou rendu public. C'est ça, la clandestinité dont parle l'édito.
Je vois. Alors, la question suivante, c'est pourquoi les gens y vont? Le dossier pointe du doigt une forme de crise de confiance envers la médecine moderne. Ça doit parler à pas mal de monde. L'impression d'être juste un symptôme, où le médecin regarde plus son écran que vous.
Précisément. Le recours à la tradition, c'est souvent une quête de ce que la modernité peine à offrir. Du temps, de l'écoute.
Une prise en charge globale.
Oui, de la personne, pas seulement de l'organe malade. et surtout une quête de sens. La médecine traditionnelle, elle replace la maladie dans un récit, dans un contexte. Elle ne guérit peut-être pas tout, mais elle prend soin différemment.
Et cette idée qu'une lecture plus brute des choses, l'observation directe, peut parfois en dire plus que des indicateurs abstraits, on la retrouve, et c'est assez surprenant, dans la section économique du magazine.
C'est une transition parfaite. Il y a un article qui explique que pour mesurer l'industrialisation du Maroc, il faut peut-être moins regarder le PIB.
Qui est une construction statistique, au fond.
Oui, et plus un indicateur très concret, la demande en électricité. L'article note qu'elle augmente de plus de 7% par an. Ça, c'est un chiffre qui ne ment pas. Une usine qui se construit, des ménages qui s'équipent.
Le compteur tourne.
Voilà, c'est la preuve physique du développement.
On passe de la lecture du pouls à la lecture du compteur électrique. Mais la logique reste un peu la même. Et cette modernisation, elle n'est pas qu'industrielle.
Non, elle est partout et elle est ambitieuse. Le magazine souligne que le Maroc est devenu le 4e pays arabe pour les énergies propres. La production éolienne a augmenté de 43% en une seule année. C'est colossal.
C'est énorme.
Et cette ambition, elle s'accompagne d'une volonté de se structurer. Avec la Coupe du Monde 2030 en ligne de mire, qui va demander des chantiers gigantesques, les ingénieurs réclament la création d'un ordre national.
Ah, pour encadrer tout ça.
Exactement. C'est une demande de gouvernance moderne, de standards, d'éthique.
Et le projet le plus spectaculaire, c'est peut-être dans la culture. Les Argan Studios, près de Rabat. Un complexe de 80 hectares, 70 millions d'euros. L'objectif affiché, c'est de faire du Maroc le premier hub audiovisuel d'Afrique d'ici 2030. C'est une vision qui est vraiment tournée vers l'industrie mondiale.
Tout à fait. Mais c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe marocain que dépeint le magazine. Est-ce que cette ambition de devenir un hub international, d'attirer les productions américaines, est-ce que ça ne risque pas de formater la création locale ?
De la standardiser.
Un peu comme la crainte de standardiser la médecine traditionnelle.
C'est une vraie tension. Est-ce que, pour être un acteur global, il faut forcément parler une langue culturelle globale et du coup perdre une part de sa singularité ? Le magazine explore cette piste.
Pas frontalement, mais il juxtapose cette information avec une autre qui est son parfait contrepoint. En parallèle de ce projet pharaonique, le magazine rapporte une décision très symbolique, elle, tournée vers l'intérieur. Yen ailleurs, le nouvel an à Mazig, est désormais un jour férié officiel.
Ah oui, c'est une reconnaissance historique.
C'est énorme. Ce n'est pas anecdotique. C'est l'État moderne qui reconnaît une tradition millénaire, pré-islamique, liée au cycle de la Terre. La tradition n'est plus un folklore, c'est un pilier de l'identité nationale. L'équilibre est là. On construit des studios pour Hollywood et en même temps, on inscrit dans le calendrier officiel une fête plus ancienne que Rome.
Donc, si je résume, ce n'est pas juste un pays qui ferait les deux en même temps, tradition et modernité, comme deux chantiers séparés, c'est plus subtil que ça. On dirait qu'il utilise sa tradition comme un filtre ou une boussole pour guider sa modernité.
C'est exactement l'impression qui se dégage. L'idée n'est pas de faire un copier-coller d'un modèle occidental, mais de se demander comment cette nouvelle technologie peut s'inscrire dans notre histoire, dans nos valeurs. Et d'ailleurs, ce débat n'est pas propre au Maroc. On le retrouve dans beaucoup de pays.
Oui, bien sûr.
Comment un État-nation moderne fait-il de la place pour des identités et des calendriers qui sont bien plus anciens que lui ?
Et tout ce dilemme, toute cette tension, ça se cristallise de manière presque parfaite dans un dernier domaine, la gestion de l'eau.
Oui, c'est l'exemple ultime. D'un côté, on a une bonne nouvelle, presque miraculeuse. Un article annonce que les réserves des barrages ont enfin dépassé les 8 milliards de mètres cubes grâce à de bonnes pluies.
Un soulagement.
Un soulagement immense. Le ministre de l'Eau déclare même que le pays est sorti de la série des années de sécheresse. C'est le réconfort de la tradition. On a espéré et la pluie est venue.
J'ai l'impression, en lisant ça, que le message est presque un piège. La bonne nouvelle est une invitation à l'inaction, non ? C'est le « ouf, on a eu chaud » qui pousse à oublier le problème de fond.
Vous mettez le doigt dessus ? C'est la double lecture qu'impose le magazine. Dans le même article, des experts viennent tempérer violemment cet optimisme. Ils disent « attention ».
Une bonne saison ne change rien à la tendance.
Voilà. Rien à la tendance de fond du changement climatique. La vraie solution, elle ne viendra pas du ciel. Elle viendra d'investissements résolument modernes, usines de dessalement de l'eau de mer, interconnexion des bassins, réutilisation des eaux usées, et surtout, un changement de mentalité. La conclusion de l'article résume tout. Le vrai tournant sera de consommer moins et mieux, même quand il pleut.
Donc, au final, quand on referme ce magazine, l'image qui reste, c'est celle de cet exercice d'équilibriste permanent. Comment célébrer la pluie qui tombe tout en investissant des milliards dans des usines pour s'en passer? Comment innover sans se déraciner?
Et la conclusion la plus juste, la plus poétique, se trouve peut-être dans la critique d'un livre, à la toute fin, un ouvrage qui s'intitule « Paranormal, Made in Morocco ». L'auteur a collecté des témoignages de gens ordinaires qui ont vécu des choses inexplicables.
Des rêves cumbritoires, ce genre de choses.
Oui, des contacts avec des défunts. Le genre de récit qu'on balaye d'un revers de main à notre époque hyper rationnelle.
Complètement.
Sauf que la démarche du livre est incroyablement intelligente. Chaque récit est soumis à un double regard, une double analyse. D'un côté, celle d'une psychologue clinicienne. Elle va parler des mécanismes de la mémoire, du deuil, de l'inconscient, l'éclairage de la science moderne.
D'accord.
Et de l'autre côté, l'analyse d'une chouafa, une voyante traditionnelle. Elle est dépositaire d'un savoir ancestral sur le monde des esprits, les présages, l'invisible. Et cette démarche, elle résume parfaitement toute notre discussion. Elle ne cherche pas à dire qui a raison. Elle met en dialogue deux manières de connaître le monde. Et ça nous laisse avec une question à méditer, qui va bien au-delà du Maroc. Dans notre monde obsédé par la donnée, par la preuve scientifique, quel savoir essentiel sur l'expérience humaine risque-t-on de perdre si on cesse complètement d'écouter ces autres voix?
Qu'est-ce qu'une chouafa peut apprendre à une psychologue sur l'angoisse humaine et inversement?
C'est peut-être ça, le véritable équilibre à trouver.